Voici Red Bull Bora Hans Grohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
87% de chance pour un sprint. C'est ce qu'a dit le manager de l'équipe Ralf Denk hier avant la 12e étape. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 4 échappées ont été tenues en laisse très courte, peut-être même un peu trop, car à 30 km de l'arrivée, la tension est montée avec une chute dans les 100 derniers mètres. Finalement, Tim Merlier décroche sa 3e victoire sur ce Tour de France. Nous regardons cela ensemble et pour cela, je salue Ralf Denk à mes côtés. Salut Ralf, salut et bonne soirée à Rosenheim. Nous allons passer tout de suite à l'essentiel d'aujourd'hui, cette chute très violente à quelques mètres de l'arrivée. La question la plus importante de votre point de vue. Je crois que tout le monde s'en est sorti indemne, n'est-ce pas?
Oui, la chute était violente, mais elle a eu lieu au 2e, voire au 3e rang. Nous étions à 100 mètres de l'arrivée et grâce à la règle des 3 km, nos coureurs avaient déjà assez de retard pour ne pas être impliqués et tout le monde va bien.
Ouais, c'était vraiment très impressionnant. Fernando Gaviria glisse et en entraîne un autre dans sa chute. Abraham C est arrivé très marqué à l'arrivée. 2 coureurs de l'auto Intermarché sont tombés directement par-dessus.
Ce genre de choses, ça ne laisse pas indifférent, même quand on en est à sa 13e participation au Tour de France, n'est-ce pas? Oui, les chutes, surtout au sprint, sont toujours violentes et avec des vitesses avoisinant les 70 km/h.
Oui, pour que vous puissiez vous imaginer la chose, essayer de rouler à 70 en voiture et de vous laisser tomber par la portière, c'est à peu près la même chose. Personne ne ferait ça, mais on peut l'imaginer et c'est un choc vraiment violent. Ça se termine généralement bien. La plupart du temps, la majorité des coureurs impliqués dans de telles chutes sont au départ le lendemain.
Oui, mais sont très résistants. Néanmoins, ce ne sont pas des images qu'on a envie de voir. Et je dois dire, comme tu l'avais déjà suggéré l'an dernier, ne sautez surtout pas d'une voiture à 70 km/h, s'il vous plaît. Évitez ça, vraiment. Peut-être juste passer la main par la fenêtre pour avoir une idée, ça suffit largement. Non pas que nous incitions à quoi que ce soit, oui, jusqu'à ce que ça arrive, tout se passait comme lors de beaucoup d'étapes de sprinteurs que nous avons vues. Pas une avance trop grande, juste 1 minute environ, il y avait parfois un peu d'incompréhension sur le fait de les laisser à seulement 40 secondes, car des attaques ont fini par se produire. Little Trek a essayé quelque chose pour éviter le sprint, à la fin c'était vraiment le chaos. Comment as-tu vécu ça? Les échappés étaient-ils presque trop proches cette fois-ci?
Oui, ça ne facilite pas les choses quand il y a des échappés. On les garde et c'est ça le côté cruel du cyclisme pro, souvent à distance ou en laisse courte. Et on a bien comblé l'écart aujourd'hui alors qu'on ne voulait même pas le faire. Mais c'est clair, quand une échappée comme aujourd'hui n'a que 40 secondes d'avance, ils ne roulent pas à fond devant car ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance.
Si l'écart atteignait 3 minutes, alors ceux de devant rouleraient à fond. Et de ce fait, oui, ils ont été rattrapés assez vite, mais ça a quand même été assez difficile. Je ne m'étais pas engagé à 100% hier sur un sprint massif, mais seulement à 90%, car la topographie des 30 derniers kilomètres invitait vraiment à tenter quelque chose, à attaquer, à rendre la course difficile et surtout... Lidl Trek a beaucoup investi aujourd'hui. Mais finalement, c'est aussi grâce à eux. Ils ont une équipe solide avec beaucoup de puissance, des coureurs endurants et même eux n'ont pas réussi à creuser l'écart aujourd'hui, ce qui a mené à un sprint massif. Et là, il s'est passé ce qu'on a souvent vu. Tim Merlier est imbattable quand on arrive dans les tout derniers mètres.
un mot à son sujet, peut-être. Il a remporté 3 victoires. Difficile de faire mieux, surtout avec si peu de sprint au programme. Les coureurs ont dit qu'ils visaient de peut-être encore Paris, mais avec le changement de parcours, ce sera très, très compliqué, je pense. Je dirais qu'il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait faire, non?
Absolument. Et il est sans aucun doute le sprinteur le plus fort du Tour de France cette année. Déjà 3 victoires d'étape. Il faut aussi souligner que Jasper Philipsen, le protagoniste des sprints massifs ces dernières années, a bénéficié d'un travail exemplaire aujourd'hui, mais il n'a tout de même pas réussi à conclure.
Il n'est tout simplement pas au niveau des années précédentes. C'est mon avis. Oui, pourquoi lui seul pourra probablement le dire. Il manque parfois juste quelques pourcents pour ne plus être le meilleur. Ou comment vois-tu ça?
Oui, c'est difficile à dire pour moi. Je ne connais pas sa préparation, mais je peux seulement constater les faits. D'habitude, c'était un duel serré entre Tim Merlier et Jasper Philipsen, mais cette année, Tim Merlier est nettement plus fort.
Oui, ce qu'on peut aussi noter, c'est que vous vous en êtes bien sorti. C'est peut-être un symbole. L'ambiance semble être au beau fixe. Ça a fait le tour aujourd'hui. Florian Lipovits a essayé de se débarrasser de son bidon et il y a toujours ces cibles où les fans veulent récupérer les bidons. Il a largement raté sa cible et a dit que c'est pour ça qu'il n'est pas devenu biathlète.
Ça montre quoi? Qu'il est en forme et que l'ambiance est bonne, non?
Oui, l'ambiance est bonne, car les gars
sentent qu'ils sont bien et qu'ils se sentent bien.
Et quand l'étape est un peu plus facile, on peut faire ce genre de plaisanterie. Les spectateurs installent toujours des cibles pour les bidons ou certains mettent des filets comme une sorte de carquois dans le mauvais sens pour collecter les bidons ou nous inviter à les leur donner. Et Florian a rendu un service à un spectateur, mais je crois qu'il n'a pas visé juste. Oui, exactement. La bouteille a fini quelque part dans le fossé jusqu'à ce que le spectateur aille la récupérer. Et c'est sympa aussi que chaque kilomètre ne soit pas parcouru très, très sérieusement ici, même si nous sommes sur le Tour de France. Et aujourd'hui, c'était probablement la dernière étape de plaine, la dernière chance pour les sprinteurs. À partir de maintenant, on va d'abord dans les Vosges, puis dans le Jura, ensuite dans les Alpes. Et il reste beaucoup de montagnes où les choses deviennent très, très sérieuses. Oui, là, on mettra le plaisir de côté et les watts vont probablement grimper.
Merci beaucoup, Ralph. Je voudrais aborder avec toi un sujet de fond que Jonas Vingegaard a un peu évoqué. Il a en effet déclaré dans une interview il y a quelques jours qu'il avait même songé à la fin de sa carrière l'an dernier. À la Saab, il a évoqué les nombreux défis d'un cycliste professionnel, le contrôle constant du poids, l'éloignement de sa famille, l'obligation de performance, un calendrier exigeant. Il a ajouté... l'an dernier, je me suis dit que si ça continuait comme ça, je m'arrêtais. Peux-tu nous éclairer sur ce point et nous dire si tu comprends sa réaction?
Oui, j'ai du mal à parler des détails chez Visma Lisa Bike et Jonas Vingegaard, car je ne suis pas impliqué dans cette équipe. Je dirige notre propre équipe. Mais je pense pouvoir résumer la situation, surtout les coureurs au classement général, ceux qui visent le top 10, le top 5, le top 3 ou la victoire sur les grands tours comme le Giro d'Italia, le Tour de France ou le Tour d'Espagne doivent courir avant. Il faut avoir cette dureté de course. C'est-à-dire que même pour ceux qui veulent être très performants sur le Giro d'Italia en mai, ceux qui visent le podium y courent déjà dès janvier. Et en plus, pour une telle grand tour, si tu veux vraiment avoir une chance d'être un protagoniste, tu dois te préparer avec au moins 2 stages en altitude. Cela signifie qu'il y a beaucoup de jours d'absence à cause des courses, des épreuves auxquelles tu participes en tant que coureur. Cela représente 70 jours de course. Avec les jours de voyage, ça fait déjà 100-120 jours d'absence, sans compter tous les stages en altitude dont tu as simplement besoin pour être compétitif.
Et tous ces stages en altitude, ben, ça n'existait pas avant. J'en suis à ma 13e Tour de France avec une telle intensité et un tel volume. Je me souviens, quand on est arrivé pour mon premier Tour de France, seuls deux coureurs s'étaient entraînés en altitude 2 semaines avant. Aujourd'hui, on s'entraîne 3 semaines en altitude. C'est au moins 2 fois, peut-être même 3 fois avant un grand tour. Et c'est ce qui, je crois, a un peu trop pesé sur Jonas, au point où il a levé la main en disant « En plus des 70 jours de course que je fais, s'ajoute encore, oui, 100 jours, ou au moins 100 jours de stage en altitude, et à un moment donné, je ne suis tout simplement plus chez moi. » Et il y a des profils, surtout ceux qui ont une famille, qui sont très attachés à leur foyer. Et pour eux, c'est évidemment un peu plus difficile que pour ceux qui n'ont peut-être pas encore d'attache familiale et qui sont plutôt au début de leur carrière. Chaque coureur est différent. Pour Jonas, ça devenait trop. Il a levé la main. L'équipe a fait quelques adaptations, je crois, à son programme de course, à ses stages d'entraînement. Et oui, maintenant, il est 2e. Apparemment, la collaboration entre l'équipe et Jonas a plutôt bien fonctionné dans ce cas. Il a lui-même dit qu'il est bien plus heureux qu'il y a 1 an.
Tu as brièvement abordé le sujet, mais ça m'intéresserait de savoir comment vous gérez cela et dans quelle mesure vous pouvez vous adapter aux coureurs. Tu as dit que les jours de course sont fixés, les coureurs doivent être présents, les courses par étapes durent évidemment plus longtemps, les stages en altitude sont désormais incontournables. Ça ne laisse finalement pas beaucoup de marge pour dire aux coureurs « Hey, tu peux rester plus longtemps en famille à tel ou tel moment ». Comment gérez-vous cela? Y a-t-il des accords individuels ou est-ce que les coureurs doivent simplement faire avec?
Non, pour éviter cela, nous avons réduit au minimum le stage d'entraînement organisé par l'équipe. Quand je dis petit, je parle du volume. Et nous avons conseillé aux coureurs, vous devez partir en altitude de votre propre chef et nous n'offrirons que peu ou pas de soutien. Mais c'est une excellente opportunité. Emmène ta femme, ta petite amie ou tes enfants et pars 3 semaines à Tenerife, à Livigno ou ailleurs. Et profite de ce temps pour t'entraîner. Livigno, par exemple, est un endroit idéal car il y a un beau centre-ville, il y a des activités, on peut faire les magasins et ainsi de suite.
Ce n'est donc pas aussi triste que les camps d'entraînement en altitude en hiver, par exemple, à Tenerife.
Et là, on peut peut-être concilier la vie de famille avec les enfants et l'entraînement. Et cette liberté, les coureurs l'apprécient beaucoup car ils ne sont pas obligés d'évoluer uniquement dans le cadre de l'équipe. Mais ils ont une certaine liberté pour organiser leur stage d'entraînement de manière plus individuelle.
Je comprends. Quels sont alors les rendez-vous absolument obligatoires que vous proposez? Parce que tu dis maintenant qu'il y en a moins, mais il y a sûrement des choses sans alternative. Beaucoup. Car en principe, on peut toujours discuter avec nous. Ce camp d'entraînement est-il utile pour moi ou non? Le coureur a donc un certain droit de regard.
Ce qui est toujours fixé, c'est le camp d'entraînement de décembre. Ce sont 2 semaines, généralement à Majorque. Nous voulons réunir toute l'équipe ici car c'est la plateforme idéale pour créer beaucoup de contenu pour la saison ou pour ce que nous diffuserons plus tard. En décembre, il ne s'agit pas seulement d'entraînement. Nous créons aussi du contenu pour tous les partenaires de l'équipe et les coureurs doivent ou devraient vraiment être présents.
Et pour tout le reste, comme la compétition est très intense, nous essayons toujours de trouver des solutions individuelles. Je comprends. Peut-être un dernier point à ce sujet qui revient souvent, c'est le contrôle du poids, les données, les performances. On surveille précisément le nombre de calories brûlées et ce qui peut être consommé en retour.
Parfois, on a plus faim que ce que l'on reçoit et parfois, c'est exactement l'inverse. Est-ce qu'on peut dire que les coureurs sont surveillés toute l'année, si je peux appeler ça comme ça, et ont-ils parfois des vacances où ils peuvent se dire je mange ce que je veux pendant 1 mois. En fin de compte, ils peuvent toujours le faire, mais ils en paient le prix, n'est-ce pas? Le prix, c'est que je me fais distancer.
Non, mais blague à part, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction dans le cyclisme, car nous sommes l'un des rares sports d'endurance, ou plutôt l'exception, où l'on peut vraiment mesurer la performance réelle produite par le coureur en course et à l'entraînement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec un marathonien ou un skieur de fond. On connaît les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles ils ont évolué pendant la course ou la compétition, mais on ne connaît pas les watts ni les calories brûlées. C'est une chose que nous pouvons suivre uniquement dans le cyclisme. C'est évidemment très utile pour gérer l'entraînement et l'alimentation, mais d'un autre côté, nous pouvons facilement calculer, tu as brûlé tant de calories aujourd'hui, tu as tel métabolisme de base et c'est exactement ce qu'il faut manger. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres sports comme le marathon ou le ski de fond de calculer cela aussi précisément qu'en cyclisme. Et oui, notre objectif est bien sûr d'avoir une courbe de poids très linéaire. C'est-à-dire que le coureur, prenons un exemple, commence le Tour de France à 63 kilos et l'idéal serait qu'il en sorte à 63. Il ne doit pas en ressortir plus lourd, mais pas plus léger non plus. Et c'est là tout l'art du nutritionniste sur place de composer pour chaque coureur une quantité exacte de nourriture pour que le poids n'augmente pas, mais ne diminue pas non plus. Et oui, ce n'est pas un secret que les coureurs légers montent tout simplement plus vite les cols que les lourds. C'est pourquoi on pousse le poids jusqu'à la limite. Mais il faut bien sûr connaître sa limite, travailler sa limite, car être trop léger signifie aussi perte de force, vulnérabilité aux infections et ainsi de suite. C'est une ligne très fine sur laquelle on évolue, mais en tant qu'équipe de haut niveau, nous avons des experts dans tous les domaines. C'est donc notre approche et je ne vois pas de relâchement majeur, car si le plan n'est pas strict, je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est le coureur qui en paie le prix, n'est-ce pas? Et puis, le coureur en a envie lui aussi. Et quand on aborde la dernière semaine du Tour de France dans les Alpes, aucun coureur ne veut rouler avec 2 kilos de plus qu'au départ du Tour, car cela ne mènera certainement pas au succès.
Absolument, mais est-ce qu'en amont et en aval, vous fixez des directives car vous voyez leur puissance à l'entraînement pour leur recommander d'arriver en forme avant les stages communs ou est-ce que c'est strictement limité au Tour?
Non, c'est le cas pour chaque course cycliste et je souligne bien le mot « recommandation » car si tu dois forcer quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Nous donnons des recommandations et nous essayons de trouver des personnalités qui les suivent d'elles-mêmes, ou alors rendre notre système si attractif qu'ils aient envie de les suivre. Parce que si tu mets la pression d'en haut en disant « tu dois », ça ne fonctionne pas. Nous devons offrir un système qui rend les coureurs meilleurs et qu'ils ont envie d'adopter et de mettre en pratique. Et nous avons demandé cela sous tous les angles pour rendre le package aussi attractif que possible afin que les pilotes signent chez nous, qu'ils sachent qu'avec nous, ils progresseront. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Comme toujours, un aperçu passionnant. Jetons maintenant un œil à demain.
Ce ne sera pas aussi amusant qu'on aurait pu le croire aujourd'hui. Nous l'avons brièvement évoqué. Les étapes plates sont terminées. Cela commence pourtant relativement à plat, mais cela dure plus de 200 km demain avec une ascension de première catégorie vers la fin.
Ça ressemble plutôt à une étape pour les échapper, surtout avec une bonne descente après le col. Tu es d'accord avec moi? Oui, il est possible que demain soit une course pour les échapper. Il est aussi possible que demain deux courses se déroulent en une seule.
Peut-être qu'une échappée se formera sur la longue approche avant le premier col, soit 160 ou 150 km. Il faudra des grimpeurs dans ce groupe, car ils devront ensuite franchir le Grand Ballon d'Alsace, ce col de première catégorie. Si tu ne sais pas grimper et que tu es dans l'échappée du jour, tu n'as aucune chance de gagner l'étape Il faut donc des grimpeurs pour attaquer demain au départ. Ils auront peut-être 10 ou 12 minutes d'avance, ou peut-être seulement 5. On verra bien. Et puis, il est tout à fait possible qu'une deuxième course pour le maillot jaune et le classement général se développe plus loin derrière. Je donnerai une bonne chance aux échappés demain d'aller au bout, mais je m'attends aussi, surtout dans ce col de première catégorie, à une course pour le classement général. Cela signifie pour vous de rouler tranquillement pendant 160 km pour avoir la force de suivre dans la montée. Oui, nous avons aussi des coureurs dans nos rangs qui pourraient là peut-être gagner ce genre d'étape depuis une échappée. Comme je l'ai dit, nous devons maintenant discuter pour savoir qui se sentira prêt ou qui serait motivé pour tenter quelque chose. Et ensuite, nous élaborerons un plan ensemble pour demain.
Mais la priorité numéro un est bien sûr que Remco et Florian, demain, puissent grimper avec les meilleurs. Ensuite, nous verrons qui lèvera la main demain et prendra peut-être des risques. Pour aujourd'hui, merci beaucoup Ralph Denk, avec plaisir et salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et DeepN Media. Merci de votre écoute. Et à la prochaine émission.